You're in charge, aren't you?
Très bien, bien commençons, chers amis. Ok, veuillez fermer les portes, s'il vous plaît. Nous allons commencer notre séance. Steve Crocker au micro. Je vais vous donner la parole. Merci, Steve. Je m'appelle Michele Nellon. Et c'est une réunion un petit peu traditionnelle, une interaction que nous avons avec ce groupe des bureaux d'enregistrement qui rencontrent le conseil d'administration. J'espère que vous êtes tous en bonne forme, toujours réveillés. Et nous vous avons envoyé quelques thèmes que nous aimerions voir couverts et débattre avec vous. Oui, vous nous avez envoyé en effet ces thèmes. Ils sont sur l'écran, la responsabilité, les régions pas assez desservies, sous-desservies, le chiffrage des succès du LEA et la transition IANA, transition du contrôle de l'IANA. Donc, on peut commencer tout de suite. Je ne sais pas quel ordre vous voulez respecter. Eh bien, je crois que nous avons l'ordre à l'écran. Nous pouvons commencer par la responsabilisation. Donc, j'espère que ça ne va pas m'endormir, dit Steve Crocker. Non, je suis sûr que vous en parlez et reparlez depuis ce matin de ce concept de responsabilité. Mais notre point de vue est un petit peu le suivant. On en parle depuis plusieurs semaines, et je dirais même depuis plusieurs années. Donc, au niveau des bureaux d'enregistrement, nous avons nos inquiétudes et nous voulons nous assurer que l'ICANN est responsabilisé. Il y a eu différentes analyses, différentes études, et avec cette transition IANA, on passe l'ICANN sous un microscope. On regarde l'ICANN de très près. Donc oui, je vais m'exprimer brièvement, mais on est là pour vraiment vous écouter. Et en effet, nous avons cette notion que la responsabilité est absolument essentielle. Nous sommes tout à fait d'accord avec cela. Nous voulons améliorer ce que nous faisons actuellement et notre structure et notre fonctionnement est toujours... nous améliorer à ce niveau, nous perfectionner. Parfois, vous savez, il y a deux domaines, et je parle en mon nom personnel maintenant. Je crois que nous devons être plus réactifs à deux niveaux. Parfois, il y a des gens qui disent « Vous n'êtes pas assez responsable parce qu'ils n'ont pas obtenu de vous ce qu'ils désiraient. » Moi, je pense que nous sommes tout à fait transparents. Et il y a également un scénario plus noir. Si on perd un petit peu tous la tête, c'est difficile de se protéger contre des scénarios catastrophes qui n'ont pas de limite. Parce que là, c'est un moment où notre perception est atteinte. On n'a plus une bonne perception de la situation. Et il y a des problèmes juridiques, problèmes qui peuvent être très graves dans ce cas-là. Donc, quels sont les problèmes de responsabilité qui vous concernent le plus? Qu'est-ce qui vous semble poser problème au niveau de la responsabilisation de l'ICANN, quels sont les mécanismes qui fonctionnent, qui vous conviennent? C'est ça ce qui m'intéresse. Donc je crois qu'on va donner la parole à James. Oui, merci Michele, merci Steve Crocker. James Bladel au micro. Donc, on peut revenir à TRT1, et il me semble que mon expérience a été qu'il y avait, mis à part l'ombudsman, le mécanisme de l'ombudsman, du médiateur, il y avait plusieurs choses que nous pouvions faire, principalement deux. D'abord, l'accessibilité, l'ouverture, la transparence. L'étude indépendante a eu pour bienfait d'être en dehors de l'ICANN, d'être externe, mais elle a pris du temps, elle a coûté cher. Donc ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça n'a pas beaucoup changé depuis ATRT1. Donc on cherche toujours un mécanisme parfait pour être plus accessible, pour être plus indépendant. Et je crois que c'est ce que je vais essayer de rechercher à l'avenir dans ce processus d'amélioration de la responsabilité. C'est trouver le bon mécanisme qui convienne bien, un processus d'analyse et de revue qui soit facile à évoquer et à retrouver, qui soit indépendant de la structure. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de cela dans le monde? Moi, je pose la question parce que c'est une question sérieuse. L'idée d'une revue indépendante, d'une analyse indépendante au niveau des systèmes, veut dire que vous faites venir des gens qui ne font pas partie du processus, qui n'y connaissent rien, ce processus, et qui doivent évaluer le processus. Ça paraît assez difficile. Ils ne connaissent pas les principes de fonctionnement. Donc ça me paraît vraiment très complexe, très difficile. Je ne veux pas refuser ou mettre de côté cette idée. Pas du tout. Mais, à mon avis, ça va être très difficile d'avoir un processus indépendant et simple. Oui, en effet, c'est très difficile à obtenir. C'est exact. Si on veut bien faire cela, ça va coûter de l'argent et prendre du temps. Donc, je crois qu'il y avait un panel permanent d'analyse qui avait été proposé à ATRT2. Ça pourrait être une bonne chose. Ça viendrait de la communauté, ça serait plus rapide, plus flexible peut-être, plus rapide que le mécanisme actuel. Donc, ce sont des modèles. La communauté est un petit peu... le staff est exécutif et la communauté, pour le moment, semble être la partie votante. Et le board semble être un petit peu la partie juridique, la branche juridique, la branche judiciaire du modèle de fonctionnement. Donc, c'est les idées que j'avais. Je sais que c'est un processus qui va être long et difficile. Je n'en doute pas. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup et je suis prêt à me lancer là-dedans. Nous avons Ray qui veut prendre la parole. Nous allons donner la parole à Ray. Merci, Michele. REPSAC, soyons bien conscients du fait que l'on parle d'un processus d'appel, uniquement d'un processus d'appel. Et il y a beaucoup de mécanismes qui pourraient exister, mais ce processus d'appel est extrêmement important. Il doit y avoir de la responsabilité à tous les niveaux et d'autres manières. Et on peut mettre en place beaucoup d'éléments. Vous avez donné le modèle des trois branches judiciaire, législative et ainsi de suite du gouvernement américain et du système américain. Vous avez donc l'équilibre qui est au centre même de ce système. Il y a différentes manières de faire. Vous avez la responsabilité basée sur des audits, sur des analyses, sur des vérifications. Il y a des mécanismes différents qui peuvent exister, qui peuvent être choisis. Ce processus d'appel est extrêmement important, mais n'est pas la seule partie de la responsabilisation. Au niveau de l'organisation, dans son ensemble, et au niveau des parties de l'organisation. Donc, lorsque vous regardez notre groupe de bureau d'enregistrement, est-ce que nous sommes responsabilisés par rapport à la manière dont nous faisons des affaires? Est-ce que on va gérer les choses d'une manière ou d'une autre? La question se pose. Je ne veux pas pointer le doigt vers qui que ce soit, mais dans toutes les entités au sein de l'ICANN, est-ce que nous avons beaucoup de phénomènes et de principes de responsabilisation qui sont déjà en place? Rob et Bruce? Oui, je voudrais répondre à votre question d'une autre manière. Robert Hall au micro. Nous avons deux entités, la revue indépendante et Ray. Oui, j'ai pris note, c'est un processus d'appel. Mais les revues indépendantes, vraiment, sont rentrées en profondeur. Ça a pris du temps, c'est difficile, j'en suis d'accord, ça coûte cher. Mais selon moi, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on a une reconsidération des choses, on travaille plus sur la forme que sur le fond. Donc, il me semble que le format des demandes de reconsidération, procédure d'appel que nous avions, doit rentrer véritablement dans la substance, dans la teneur des problèmes. Donc, s'il y a une commission beaucoup plus large, et la communauté ne vote pas au jour d'aujourd'hui, me semble-t-il. Donc, il me semble que l'on pourrait mieux servir la transparence en rentrant plus en profondeur dans les problèmes, en une résolution de problèmes plus rapide, en se concentrant sur le fond et non pas seulement sur la forme. Oui, le processus qui existe de reconsidération, Steve Crocker au micro, c'est surtout sur le processus et non pas sur la substance. C'est pour cela que on gère les manières, les problèmes de cette manière. C'est le processus que nous avons en place pour le moment. Donc, si vous voulez faire appel d'une manière un petit peu juridique, là, les personnes ne sont pas satisfaites parce que ça ne se fonctionne pas comme ça pour le moment. On n'a pas un système en place de ce type. Notre procédure d'appel ne fonctionne pas à ce niveau. Donc, ce que je crois comprendre, ce qui est dit ici, c'est que on devrait permettre un réexamen de la substance. Et donc, ce ne doit pas être les mêmes personnes qui doivent être jugées parties, me semble-t-il. Donc, tout cela est clair, mais c'est difficile à effectuer. Parce que quelle est la distinction que vous faites entre le calibre du processus de décision? Vous avez un groupe qui dit X et un autre groupe qui reconsidère cela, qui analyse les mêmes problèmes et qui arrive à une autre conclusion, à une autre solution. Alors, sur quelle base vous allez apprécier une réponse plutôt qu'une autre, d'une entité plutôt qu'une autre? Oui, je crois que il faut supposer que le board fait de son mieux pour trouver les bonnes décisions. Et je sais que ce n'est pas comme ça que ça se passe. La reconsidération, les demandes de reconsidération sont toujours basées sur le processus plutôt que sur le fond. On n'arrive pas à travailler sur la substance. On travaille toujours sur la forme, sur le process. Et je crois qu'on ne creuse pas assez lorsque on essaie d'apporter des réponses. Donc, ce serait facile, en effet, de voir cette commission, peut-être d'avoir une commission renforcée, avec plus de diversité. Mais je sais que lorsqu'on n'est pas content d'une décision, on veut faire appel, on veut avoir un processus en place. Mais parfois, on se demande exactement comment le board arrive à ces décisions. Donc, je ne sais pas exactement comment cela a été conçu dès le départ. Mais il y a des pièges dans ce processus. En effet, toutes les personnes qui perdent la décision n'est pas en leur faveur, eh bien, ils vont se plaindre et ils veulent faire appel, ils veulent avoir un processus qu'ils peuvent suivre. Et ça peut coûter très cher, ça peut prendre beaucoup de temps. Bruce? Oui, merci beaucoup, Michele, de me donner la parole. Bruce Tonkin au micro. Oui, je vous ai écouté. Moi, je vous dis que l'on va à fond lorsqu'il y a une demande qui nous est proposée. Nous avons des règles, évidemment, mais nous allons également en profondeur. Nous analysons les problèmes. C'est comme cela que nous travaillons. Et ce sont des décisions parfois qui sont prises avec de longs raisonnements. Mais vous soulevez un problème. Et je crois que James l'a déjà dit, c'est maintenir l'indépendance. Je crois que nous avons quelques mécanismes en place que nous avons développés au niveau des GTLD qui avaient comme intention d'être éloignés du pouvoir du conseil d'administration avec donc une grande indépendance. Le personnel a travaillé de très près pour résoudre certains problèmes sans que le board ne s'en mêle. Donc ce que nous voyons maintenant avec ce système de reconsidération, eh bien, la manière dont cela est structuré, c'est la résolution de litiges que nous avons comme processus à l'ICANN. L'ICANN n'est pas un expert pour prendre des décisions au niveau juridique ou à certains niveaux techniques, à certains niveaux très complexes. Il faut voir où sont les experts. Donc le board doit bien entendu s'occuper des procédures à suivre. Donc il y a des mécanismes indépendants qui fonctionnent selon moi et on analyse les mérites avant de prendre des décisions et on analyse en profondeur. Et avant d'arriver au procès ou à une résolution devant les tribunaux de litige, eh bien je crois que nous avons beaucoup de mécanismes de résolution de conflits au sein de l'ICANN, notamment pour les GTDLD, et on n'a pas véritablement un tribunal à l'ICANN qui pourrait statuer. Donc, les droits juridiques, je crois, sont clairement expliqués. Donc, il y a les problèmes sur les chaînes, les confusions au niveau des chaînes, les objections de la communauté, les problèmes d'ordre public, de moralité, tout cela, ce sont des décisions qui ont été prises, parfois pour la première fois. Et on n'a pas pris ça à la légère. Ces décisions ont été prises après un travail en profondeur, un travail difficile d'un groupe important de personnes, de commissions, qui se sont penchés là-dessus. Donc je crois qu'il faut qu'on travaille ensemble. Il y a des cas, je crois, où on doit avoir des mécanismes qui vont plus loin, en effet, mais nous avons déjà des mécanismes en place. Peut-être qu'on pourrait penser à de nouveaux mécanismes avec les nouveaux GTLD, penser à aller plus loin, mais il faudra voir comment vont s'appliquer ces mécanismes et quelles formes vont prendre ces mécanismes et ces systèmes de résolution de conflits. Donc, Bruce, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Moi, je crois que parfois, il y a eu des décisions qui ont été mal gérées, je crois. Et ça, c'était très clair. Donc, apparemment, ça paraissait simple. Et il y a quelques exemples de cela. Moi, je suis d'accord pour vous dire que le board n'a pas l'expertise pour faire cela, ni le mandat pour faire cela. Mais je crois qu'on peut trouver 5 membres d'un panel, on peut trouver des membres d'un panel qui sont des experts. Peut-être qu'il faudrait qu'ils nous donnent une réponse plus ou moins définitive, parce que le pire, c'est d'avoir des divisions opposées pour un seul problème à régler. Fadi ? Oui, permettez-moi de vous poser la question. Je crois que vous devriez vous joindre à ce groupe de travail. Ce serait très utile. C'est pour cela, c'est excellent. C'est ce qu'on va voir. Ce type de débat très profond, très difficile pour vraiment aller au fond des choses. Et j'apprécie ce que vous dites. Je sais que vous avez beaucoup d'expérience. Pour que ça marche, cette résolution de conflit, pour qu'on ait des procédures, pour qu'on ait justement une responsabilisation accrue avec des gens comme vous qui sommes des spécialistes, qui veulent vraiment qu'on améliore la prise de décision à l'ICANN. Et c'est le moment de nous dire comment travailler, comment faire. Est-ce que l'on veut avoir un groupe de travail? comment structurer ce groupe de travail, comment trouver les bonnes personnes au groupe de travail. Comme vous le savez, Rob, la responsabilité, eh bien, comment la définir? Sommes-nous responsables aujourd'hui? Comment pouvons-nous être plus responsables demain? Il faut en parler vigoureusement, il faut définir tout cela, il faut trouver de bonnes idées comme celles que vous avez. Alors, rejoignez-nous avec vos idées, engagez-vous, engageons-nous dans ces groupes de travail. On a besoin vraiment, en effet, de régler une fois pour toutes ces problèmes et de trouver des solutions qui fonctionnent. Oui, très bien. Eh bien, je crois que nous allons passer à un autre point que nous avons à notre ordre du jour. Oui, très bien. Donc, Steve nous a demandé de parler des instruments de mesure pour mesurer le succès du LEA. Et je crois que Elliot allait nous dire quelques mots à ce sujet. Donc, nous allons lui passer la parole. Oh, merci, Steve. Elliot Noss au micro. Donc, à moins que vous ayez quelque chose pour nous surprendre à nous dire, non, je n'ai pas de grande surprise à annoncer. Ça, c'est une bonne chose. Mais allez-y, je vous en prie. Je suis sûr que vous allez couvrir tout ce qui doit être couvert et j'interviendrai si je veux rajouter quelque chose. Non. Vous savez, j'étais très précis. On a déjà débattu de cela. Ça fait plusieurs réunions que l'on parle de cela. Nous avons eu des débats très spécifiques à Singapour avec Fadi et vous-même. Vous nous aviez demandé d'avoir des instruments de chiffrage et de mesure pour le LEA et voir si on avait besoin d'une partie tierce pour cela. Donc, moi, je croyais que vous alliez avoir quelques résultats pour nous à Londres. Donc, je vais soulever quelques points. J'aimerais vous rappeler de ce qui a été fait. Il n'y a pas eu d'autres demandes qui a été faite auprès de nous. Je crois qu'on a besoin que ces instruments de chiffrage puissent soient vraiment utiles. Et donc, une nouvelle fois, on aimerait que vous continuiez à faire respecter donc ces règles. Et il y a d'autres thèmes qui pourront être rapportés. Et on a besoin de chiffrer tout cela, de mesurer et d'évaluer tout cela. Vous savez que le GAC fait beaucoup de demandes au nom du LEA. Donc, je crois que il y a beaucoup de demandes qui arrivent à ce sujet. Et deuxièmement, ce que j'aimerais dire et partager ici à Londres, c'est que on a fait un choix très conscient de partager des données, les données dont je vais vous parler maintenant, partager ces données dans cette salle, d'engager le dialogue. Il y a eu d'autres séances à ce sujet, il y a eu d'autres réunions à ces sujets. Mais ce qui est très important, c'est que on en entend parler dans la presse, on en entend parler dans des blogs aussi de tout cela. Donc nous avons compilé avec beaucoup de bureaux d'enregistrement, des données. Nous avons des données maintenant, des chiffres. Et parfois, c'est un petit peu inquiétant de regarder ces chiffres. C'est très très clair. Le programme a été lancé il y a peu de temps. 8000 domaines ont été suspendus. 800 000 domaines ont été suspendus. Ce sont des personnes. Il n'y a pas d'exception à la règle. Sans le faire exprès, ils n'étaient pas au courant lorsque l'on reçoit des notes ou pour des mots de passe ou ainsi de suite. Leur site web s'est écroulé. Il y a des sites web de groupes sanitaires, d'hôpitaux qui se sont écroulés, qui ont disparu, qui ne pouvaient plus fonctionner. Il y a peut-être des blogs comme celui de Jeff Newman qui ne fonctionnaient plus. Et on veut partager cela avec vous. C'est vraiment une préoccupation. Les bureaux d'enregistrement vous donne nos données. Ce n'est pas facile parce qu'on est tous en concurrence, vous le comprenez bien, nous sommes tous des entreprises en concurrence. Là, on vous donne des chiffres, on vous donne nos résultats, une partie de nos résultats et les problèmes que nous avons connus. Les forces de l'ordre également jouent un rôle et apprécient ce type de données. Donc, nous pouvons vous démontrer que cette ligne de conduite nous fait beaucoup de mal. On parle de 2 millions d'utilisateurs de l'Internet. Ce sont des personnes qui essayent d'utiliser l'Internet qui ne sont pas représentées. C'est une entité constitutive qui n'est pas représentée. 2 millions de personnes. Voilà les chiffres. Donc, c'est une véritable tendance qui existe. Donc, je crois que je peux parler tout à fait ouvertement. Et c'est un gain politique. On le répète depuis longtemps, lors des débats, cela n'est pas bon. Cela ne fait que de créer des problèmes. Cet impact est à 100% néfaste. Il n'apporte rien de positif. Jennifer, au micro, Elliot nous a parlé de ses 800 000 sites web. Jennifer Stanford, au micro. Ça, c'était seulement un petit groupe de bureaux d'enregistrement. Donc, si vous multipliez cela par tous les bureaux d'enregistrement, eh bien, cela montre bien qu'il y a un problème sérieux et qu'il y a un grand nombre de personnes impactées. Fadi Chiadé. Donc, est-ce qu'on pourrait extrapoler un petit peu pour savoir ce petit groupe, combien représente-t-il? Oui. Oui, 75% des enregistrements, mais les 25% moins représentés, c'est dans des parties du monde où on est moins connecté avec l'ICANN, vu la nature de la validation, du processus de validation, on aura une proportion plus élevée, en effet, d'échecs. Très bien, donc, oui, moi, je ne suis pas satisfait de cela. Donc, permettez-moi de répondre et de vous dire ce que j'ai à l'esprit. Vous nous dites, nous devons mettre en place des règles supplémentaires et une partie de ces règles a forcé donc à l'échec de nombreux sites web qui ont été retirés. Vous nous avez parlé du fait que cela a eu un impact négatif sur de nombreuses personnes utilisant l'Internet. Donc, je crois qu'il y a une approximation ici. En effet, des règles peuvent avoir des conséquences parfois néfastes. Il y a des faux positifs, des faux négatifs. Il faut être très prudent à ce niveau-là. Mais ce qui est bien compris ici, c'est que vous avez une option de peaufiner le système. Vous pouvez essayer de rendre plus intelligent le système. Donc les données que vous avez sont importantes. Même si c'était à 100% exact, elles ne sont pas complètes par rapport au nombre de sites web qui auraient dû être retirés. C'est très difficile à évaluer cela, n'est-ce pas? Donc, une autre partie du puzzle, et ça j'y réfléchis depuis très longtemps, est-ce que cela apporte une différence sur les abus criminels qui existent sur l'Internet? Les ventes illicites, la fraude, et ainsi de suite, tout ce qu'il y a de néfaste sur l'Internet. Mais Steve, j'aimerais rebondir là-dessus, parce que c'est justement un piège. C'est le piège, dit Elliot Ness. Vous me permettez de reprendre la parole? Oui. Oui, permettez-moi de terminer quand même mon point de vue. Non, je vous laisse la parole, Elliot. Oui, ce dialogue a toujours posé problème. Vous nous dites peaufiner un problème, vous nous parlez de faux positifs, faux négatifs, et ainsi de suite. Pour le moment, notre système, on ne peut plus le peaufiner, on ne peut plus le changer. On ne nous a jamais mis carte sur table. Ceci va stopper les sites web. Le dialogue a été de ce type. Comment on peut être... Est-ce que ce n'est pas raisonnable de demander cela? C'est ce qu'on nous a dit. Non, mais j'allais exactement vous répondre. Steve Crocker au micro. Je crois que, au niveau du niveau zéro dont vous parliez, quelle est la valeur de cela? Est-ce que cela a un aspect néanmoins positif? À quoi est-ce que cela sert? Comment est-ce qu'on peut le caractériser? Vous savez, moi j'ai déjà beaucoup parlé aux forces de l'ordre. Expliquez-nous, démontrez-nous, documentez, mesurez pour nous avec des chiffres l'amélioration dans le système, la réduction du crime et des abus. Je n'ai jamais reçu de chiffres. Je leur ai demandé plusieurs fois aux forces de l'ordre. J'ai eu des discussions informées avec certains membres, parfois des discussions difficiles, et ce qui a émergé de ces discussions, c'est que ils n'assurent pas un suivi. Donc, on n'a pas de chiffres. On ne sait pas combien de crimes ont été évités grâce à cela et qu'ont été effectivement les progrès de réaliser. Donc, ça, c'est difficile. C'est pour ça qu'on a besoin d'une formule, pour ça qu'on a besoin, je crois, de bonnes statistiques, d'aspects chiffrés. Ça va prendre plusieurs couches de travail, plusieurs niveaux de travail. Et ce qui va être exposé, ce que l'on va voir, vous allez en effet peut-être avoir l'impression que cela est néfaste pour vous, mais nous avons besoin de ces chiffres. Il faut absolument que le système soit équitable. Il vous semble peu équitable, je crois entendre cela. Et je fais preuve d'empathie envers vous. Je comprends qu'il faut que l'on fasse un éclaté de ce système pour l'analyser de plus près et pour l'améliorer. C'est comme ça que l'on peut procéder. L'aspect positif que je vois ici, c'est que nous sommes tous sujets à beaucoup de pression des forces de l'ordre. On les a écoutés, on doit leur répondre, on doit les aider. Nous l'avons fait. Cela crée une obligation de leur part d'assurer un retour avec des résultats chiffrés. Donc nous avons un impératif moral à ce niveau. Il faut que l'on comprenne bien la situation si l'on veut bien faire notre travail. Cela va demander des structures au plus haut niveau, au niveau universitaire, au niveau des forces de l'ordre, et ainsi de suite.
Alors, Elliot au micro, il y a deux points sur lesquels j'aimerais insister. D'abord, le cadre n'a jamais été fixé par rapport aux dommages spécifiques que cela pourrait entraîner. Souvenez-vous, Steve, que une grande partie du dialogue était une demande faite et de notre côté, on disait que les personnes mauvaises allaient être poursuivies. Et au fil des réunions du GAC, nos représentants se sont levés et ont dit « Nous n'avons pas encore validé les adresses mail. » Donc, je voudrais dire maintenant que nous avons un processus parallèle qui est en cours à l'heure actuelle, où nous avons exactement le même débat autour de Huiz. C'est exactement la même menace, c'est-à-dire qu'on va centraliser de manière significative, on va exercer beaucoup plus de contrôle, et pour ce faire, on va se défaire de dommages infondés, qui ne sont pas démontrés ni documentés. Et ça va donner lieu à des résultats calamiteux. Donc encore, c'est la même chose. Les gens disent, voilà, il faut centraliser ces données. Mais ça, c'est très dommageable et pour de nombreuses raisons. Steve Crocker, alors laissez-moi être un peu plus ferme et clair. Et j'allais l'inclure dans ma première réponse. Alors, maintenant, nous avons non seulement les recommandations qui proviennent de l'équipe de révision de WHOIS et des changements précédents que nous avons inclus dans le RA, mais maintenant, nous avons également un groupe de travail supplémentaire d'experts qui voit les changements structurels et stratégiques pour l'enregistrement des données et l'accès aux données. Personnellement, je pense que même si la centralisation de ces données est très importante, elle est secondaire par rapport... Elliot au micro, oui, excusez-moi. Je n'essayais pas de remettre en question cela. Steve au micro, oui. La grande question, c'est qu'on collecte des informations. Qui a accès? Qui n'a pas droit à avoir accès à ces données? Qui y a accès, etc. Quels sont les critères utilisés pour donner ou non un accès à ces personnes? Je suis tout à fait d'accord pour dire que nous avons un cadre qui a été proposé pour ce groupe de travail et j'ai fait partie de ce groupe de travail. Je n'ai pas fait tout le travail, mais j'y ai participé. Et j'ai très fortement proposé que ce travail soit effectué, tout comme beaucoup de collègues qui ont participé à ce groupe de travail. Je crois que c'était très important. Donc, je l'ai totalement appuyé. Et je suis tout à fait d'accord avec ce dont vous parlez. Comment savoir, comment fixer ces paramètres, comment les mesurer, etc. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire. Michali, qui est ici, peut en parler. Elliot Nos au micro. Alors, vous devriez être à même de dire, voilà, il y a un problème parallèle qui est en train de surgir. Comment allons-nous le résoudre? Quels sont les problèmes qu'on est en train d'essayer de résoudre? Steve Crocker, micro. Peut-être que d'autres pourraient y répondre ou en tout cas l'exprimer mieux. Mais nous pensons que les noms de domaine et toute la machinerie autour des noms de domaine et des sites web qui sont utilisés à des fins antisociales, pour fraude ou autre, ça donne lieu à un lien de contrôle. Et donc, la capacité de voir qui commet ce genre d'infraction doit être renforcée. Elliot au micro, oui, ça, c'est une idée, mais ça n'est pas une affirmation. On a fait des études, plusieurs études, mais il n'y a aucune hypothèse testée là-dessus. Steve Crocker au micro. Oui, j'ai demandé à ce qu'on analyse cela et maintenant on cherche une issue pour sortir de cela. Michel Nylon au micro. James attend très patiemment. James Bladel au micro. Oui, nous t'écoutons. James au micro. Bien, je vais être rapide. C'est difficile à suivre parce que je pense que plutôt, parce que c'est un débat où on a l'impression qu'on a été mis de côté d'entrée de jeu et qu'il y a des problèmes difficilement mesurables auxquels on est confronté. Donc, pour répondre à deux questions spécifiques de la part du personnel à ICANN et de l'institution ICANN. D'abord, on entend que le RA a été tellement positif qu'on a besoin davantage de vérifications plus fréquentes et approfondies. on doit avancer là-dessus, mais on a besoin du soutien de la communauté parce que ça engendre des dommages. Et deuxièmement, on a besoin que l'ICANN et toutes ses unités constitutives sensibilisent autour de cela. Et ce n'est pas parce qu'un jour on va suspendre votre site web qu'on va aller voir Elliot. L'exemple, c'est qu'il faut comprendre que ça fait aujourd'hui, maintenant, partie de la situation d'un propriétaire de nom de domaine. Les registres s'en prennent à nous. Donc voilà les deux réponses dont nous avons besoin de la part de cette organisation. Le soutien de la communauté et une plus grande sensibilisation vis-à-vis de cela. Michel Nylon au micro, oui, Fadi, puis nous allons passer à un autre point. Fadi au micro, oui, tout à fait, Michel. Je voudrais vous dire que je suis d'accord avec le message que vous nous envoyez, mais avant de nous demander d'être efficace et de vous soutenir, nous avons besoin que vous fassiez deux choses. Vous nous demandez deux choses, mais moi j'ai deux conditions à vous poser. D'abord, vous travaillez tous dans des entreprises. Aujourd'hui, vous nous avez jeté des chiffres. Ça, c'est un excellent point de départ. Mais faisons quelque chose de ces chiffres. Parce que vous avez raison, Elliot, il faudrait faire pression pour avancer. Mais il faudrait également qu'on soit prêt pour montrer. Voilà quelles sont les conséquences. Voilà les conséquences dommageables. Et c'est pour cela que c'est néfaste. Et j'aimerais que cette manière de procéder que vous seul pouvez adopter, vous la fassiez. Si vous voulez, moi, je vais le transmettre aux Grecs, si vous ne voulez pas le faire. Le LEA est ici, à ses propres réunions. Pourquoi ne pas leur parler et leur montrer ce qui se passe? De même avec le GAC, ils sont là et ils vont continuer à vous poser des exigences. Pourquoi ne pas leur démontrer que voilà, c'est ce que vous nous demandez, nous n'avons aucune donnée de votre part, la seule chose que nous avons, c'est tel et tel effet. Ils devraient savoir. Christian Müller, au micro, la première chose que vous avez dite, qui n'est pas de mauvaise interprétation, je le soutiens. Mais nous sommes toujours sur la défensive et on a l'impression qu'on nous met des restrictions et que nous sommes toujours dans la position où nous devons expliquer pourquoi ces restrictions sont mauvaises pour nous. Pourquoi placer ce fardeau sur nous? Est-ce que ce fardeau ne devrait pas être placé sur d'autres personnes? Fadi au micro, oui, je suis tout à fait d'accord. Ils imposent des restrictions sur nous qui sont dommageables. Alors, inversons les choses. Voilà, dites-leur, vous nous demandez tout cela et voilà ce qui se passe. Si vous ne pouvez pas me dire en quoi c'est positif, ne nous demandez pas plus de ça. Je suis d'accord avec vous. Utilisez vos conclusions, vos résultats pour démontrer et étayer votre point de vue, parce que je ne veux pas imposer davantage de difficultés. Michel au micro, oui, on va suivre cette discussion. Mike Silber au micro. Oui, je comprends bien le problème que vous avez, parce que j'ai le même par rapport aux demande faite aux clients. La question de la proportionnalité, mais aussi les coûts de responsabilité. Qui les assume? Je pense que Fadi a mis le doigt sur le problème. Donc, je suis désolée, mais il faut le transmettre au conseil d'administration et on a besoin de plus de données avant de prendre une position. Mais moi, personnellement, je pense que si ce que vous dites est vrai, alors il faut le dire au LEA et avant de convenir d'appliquer ce type de conditions sur des acteurs qui ne sont pas forcément de mauvais acteurs. Donc, donnez-nous les motifs et les justifications nécessaires. Mais j'aimerais passer maintenant au point suivant à l'ordre du jour, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. González au micro. Oui, je vais être rapide. Certains membres du conseil d'administration et du personnel ont été impliqués dans des négociations internationales, des accords. Et lorsque ce type de discussion a eu lieu, il y a de nombreuses années, et là, c'était le même cas de figure que celui dont vous parlez maintenant. Donc je pense que ce que Fadi dit est vrai. Donnez-nous suffisamment d'informations pour mieux comprendre votre point de vue et le faire comprendre au reste de la communauté. Également, si vous allez dans certains pays où il y a des processus de négociation, vous vous rendrez compte que vous serez mieux compris que vous ne le pensez. Michael est au micro. Oui, merci. Il faut continuer à avancer sur notre ordre du jour. Passons maintenant donc au prochain point à l'ordre du jour, région sous-desservie. Michel Nyland, oui, merci Steve. Jennifer au micro, oui, nous pensons que nous devrions servir les régions sous-desservies, mais nous avons quelques préoccupations par rapport à la réalisation de cet objectif. Donc il y a des changements par rapport au RAA 2013. Qui pourrait donner lieu à des conditions, à un environnement équitable parmi les opérateurs, les bureaux d'enregistrement. Outre le fait de prendre ce type d'action, la communauté devrait définir le succès et identifier la manière de mesurer ce succès, de telle sorte que on ne soit pas dans la situation, quelques années plus tard, de définir ce qui représente le succès du RAA. Steve Crocker, micro. On n'a pas dit qu'on allait parler des régions sous-desservies? Michael, au micro. Non, en fait, il s'agit de deux questions différentes. Je vois que Sarah souhaite intervenir. Cyrus, pardon. Steve Crocker au micro. Oui, j'ai essayé de voir quelle était la différence entre ces deux questions. Cyrus au micro. Alors, en fait, on en a parlé avec l'unité constitutive depuis un moment. L'objectif était de voir s'il y a une manière de promouvoir et d'augmenter l'existence de l'écosystème des noms de domaine. Peut-être qu'il y a une meilleure façon de décrire cela, mais j'ai besoin de plus de café pour cela. Donc, il y a une proposition, ce n'est même pas une proposition, mais une réflexion et certaines idées pour demander les contributions de la communauté. Et je me félicite de voir toutes les contributions qui ont été faites. On n'a rien dessiné encore. La manière de procéder, nous allons la décider ensemble. Donc, soyez assurés que tout cela va être totalement transparent et qu'on va le décider ensemble. Michael Nealon au micro. Rob? Alors, Rob Hogarth au micro. Oui, je pense que ce que vous avez dit, c'était totalement vrai. C'est la première fois peut-être que je vous entends dire que on est tous sur un pied d'égalité. Peut-être que quelqu'un qui Votre mesure, c'est on n'a pas suffisamment de bureaux d'enregistrement incorporés dans la région arabe, par exemple. On a besoin d'intégrer davantage de bureaux d'enregistrement là. Donc, certains vont les incorporer très rapidement. Et ce n'est pas toujours ce que vous voulez. Vous le mesurez de la mauvaise manière, d'après moi. Ce n'est pas ça qu'on devrait analyser. Nos bureaux d'enregistrement offrent des sites web en arabe. Qui fait de la publicité? Qui diffuse ces régions? Dans sa région, est-ce que ce site web est utile pour la région? Voilà le genre de questions qu'on devrait se poser. Deuxièmement, réfléchissez bien avant de le faire. Pour la première fois dans l'histoire, nous avons des domaines de premier niveau qui visent précisément ces régions. Avec l'introduction de nouveaux GTLD dans les différentes langues de ces régions, ça peut résoudre un certain nombre de problèmes. Michael, your micro. Oui, Olga. Olga Madruga Forti. Oui, merci. Je crois que vous avez soulevé un point qui me tient à cœur et qui est très compliqué parce que tout changement doit prendre en considération un certain nombre de facteurs. Et j'aimerais connaître quelles sont vos impressions à ce sujet. D'abord, en termes d'opportunités, d'égalité, des chances entre les bureaux d'enregistrement. Et j'apprécie l'importance que vous accordez à cela par rapport à l'aspect monétaire. Mais une fois que vous essayez d'intégrer de nouveaux bureaux d'enregistrement, je suis sûre que vous-même, dans vos efforts de développement, vous voudrez trouver des moyens de vous développer d'une manière qui ne sera pas nécessairement homogène, mais amener de nouveaux types d'organisations. Maintenant, par rapport aux implications du développement, cette incorporation entraîne toute une série de quiproquos. Dans les régions sous-représentées, que ce soit en raison d'accès ou d'entrave au marché, d'impossibilité d'opérer dans certaines régions, toutes ces régions ont leur propre situation. Par rapport aux entraves au marché, je dois dire que ça a à voir avec les affinités culturelles. Donc, quand certains gouvernements ont des barrières, des entraves pour opérer dans d'autres pays, il faut essayer de voir quelles sont les affinités culturelles locales. Donc, j'aimerais savoir quelle est votre idée par rapport à l'expansion ou au développement de votre groupe en prenant en compte ce que je viens de dire. Alors, Ray Plazac, oui, j'aimerais revenir sur ce que vient de dire Olga. Au cours de ces dernières années, j'ai eu l'honneur de participer à une stratégie de développement pour l'Afrique, l'Amérique latine et dans une certaine mesure le Moyen-Orient. Et le principal sentiment par rapport à ce qu'a dit Olga, c'est ce qui se passe en Afrique. En Afrique, beaucoup de pays africains parlent anglais, donc ce n'est pas une question de langue. Ça a à voir avec ce que Olga disait. Si nous voulons que l'Internet se développe dans ces régions sous desservi, alors il faut développer les capacités pour que ces régions se desservent elles-mêmes. Donc, il faut trouver un équilibre entre le fait de maintenir une accréditation de registre équitable et trouver des mécanismes pour que les entreprises locales puissent se développer. Donc, plutôt que de nous efforcer à trouver des moyens à maintenir un statu quo, il faut s'assurer qu'on puisse faire en sorte que les entreprises se développent là-bas. Michael Lee, oui, merci. Gonzalo Navarro au micro. Oui, j'aimerais soutenir ce que Skolga vient de dire. Vous l'aurez noté dans mon accent, je suis latino-américain et notre perspective en Amérique latine, et c'est la même discussion qu'on a eue, à savoir pourquoi on n'a pas suffisamment de nouveaux GTLD dans la région, pourquoi on n'a pas suffisamment de participation de la région. Je crois que ce n'est pas simplement une question de ressources, mais c'est également un manque de compréhension des règles qui s'appliquent à ce secteur d'activité spécifique ou à cette unité constitutive spécifique. Parce qu'on a l'impression que c'est trop anglo-saxon par rapport aux mécanismes économiques qui sont en vigueur. Donc, dans la région, peu d'entreprises sont à même de comprendre ce type de réglementation. Donc, au-delà du problème monétaire dont je fais état ici, je crois que cet effort devrait s'accompagner par une plus grande explication, une meilleure explication des règles, peut-être une modification des règles, et s'adapter à la manière de faire des affaires en Amérique latine. Par exemple, les politiques d'assurance sont difficiles à couvrir en Amérique latine parce que les compagnies d'assurance n'ont pas ce type de risque, vous savez, donc n'ont pas ce type d'assurance. Donc, elles doivent aller dans d'autres régions pour obtenir ces polices d'assurance. Donc, il est très intéressant de voir comment faire face à ce problème et comment y travailler ensemble. Michael Lee au micro. Oui, on va résumer très rapidement. Nous avons soumis des commentaires là-dessus, où on a soulevé la question de l'assurance spécifiquement et d'autres questions également. Et j'ai eu des réunions avec Fadi, Akram et d'autres membres de l'équipe exécutive afin d'analyser ces questions autour des critères. Nous sommes tout à fait conscients de ce problème lié à l'équilibre et par rapport au fait de savoir si ces critères tels que l'assurance, etc., doivent être de nouveau analysés. Donc, n'hésitez pas à consulter les commentaires que l'on a faits. Fadi au micro, oui, je voulais soutenir cela. Les bureaux d'enregistrement nous ont énormément aidés là-dessus. Je veux les remercier. Gonzalo Navarro au micro, oui, excusez-moi, je ne voulais pas vous attaquer d'aucune manière. Je voulais vous proposer quelque chose. Michael, au micro, oui, excusez-moi, peut-être que j'ai mal compris, excusez-moi. Alors, James va parler brièvement de la transition de l'IANA et je sais que très rapidement on va nous jeter en dehors de la salle. Bien, c'est la partie où normalement on doit vous remercier, vous féliciter, etc. Mais désolé, on n'a plus assez de temps. James Blood à le micro. Non, attendez, dit Fadi, on peut repousser la séance suivante. James Blood à le micro. Oui, nous avons exprimé notre position en tant que partie prenante afin de renforcer les propositions, le processus proposé pour la transition de l'IANA. Et vous aurez noté qu'on peut faire une différence très claire entre les suggestions que l'on a faites et ce qui a été proposé. Donc, merci d'avoir participé à ce processus. Nous pensons que c'est essentiel et que cela va bénéficier nos clients et nos entreprises. Merci. Michael Lee, merci. Steve, merci aux membres du conseil d'administration et nous attendons avec impatience de pouvoir parler avec vous de nouveau à Los Angeles. Steve Crocker au micro, merci beaucoup. Merci à tous.